Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors ce 26e épisode d'Asialogie vous sera un pur moment de détente, chers auditrices et auditeurs de Radio Alpa. Et pour toi aussi, bien sûr.
J'espère bien.
Nous allons évoquer l'art du bain en Asie. Un bonheur simple que nous aimerions vivre chez nous.
C'est
plus compliqué. Il faut beaucoup de préparation pour faire l'équivalent.
Je pense que j'apprécierais, oui.
Et puis avec toi, Didier, on va se rhabiller en kimono cette fois. La tenue traditionnelle japonaise, très en vogue.
Ouais, je suis pas surpris. Alors, donc, on va passer tout de suite au sauna japonais, s'il te plaît, Corinne.
Oui, alors non, pas tout de suite au sauna japonais, Didier, non. Je vais parler de l'art du bain en Asie, en général, et je vais parler de ce qui se passe en Chine, en Corée et au Japon.
D'accord, je confonds avec la petite musique qui doit passer derrière ta voix, en fait.
Oui, qui s'appelle sauna japonais,
voilà,
curieusement.
C'est pour ça, j'ai ripé.
T'as ripé.
Alors, allons-y.
Alors, c'est une pratique millénaire, l'art du bain. Elle est toujours bien vivante, même très 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 vivante, et qui dépasse bien sûr largement l'hygiène.
Ouais.
C'est un grand moment de détente et de bien-être et de pureté.
D'accord.
Chaque culture a développé ses propres traditions en fonction des croyances religieuses, des ressources naturelles et des modes de vie.
D'accord.
Alors pour commencer, je dirais qu'en Chine, on va au bain pour équilibrer le chi, l'énergie, et se sociabiliser. En Corée, pour se détendre et partager un moment de convivialité.
Ça me va bien.
Et au Japon, pour se purifier.
D'accord.
Hommes et femmes, bien sûr, séparés, sauf dans le cadre familial. Et ça, c'est valable pour les trois pays.
Ok. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Tu nous as parlé de la Chine.
Oui.
Dis-nous comment ça se passe, s'il te plaît, en Chine. J'imagine, quelque chose me dit que la médecine traditionnelle est à l'origine du bain.
Oui, tu imagines bien, Didier. Alors, en Chine, le bain, c'est un rituel d'harmonie. Il est influencé par la médecine traditionnelle et le taoïsme.
Oui.
C'est un moyen donc d'équilibrer le qi et d'éliminer les toxines.
Mmh.
Alors depuis l'Antiquité, les Chinois considèrent le bain comme un rituel lié à la purification de l'âme et à l'équilibre du corps.
Okay.
Alors on a trouvé des textes vieux de plus de 3000 ans qui mentionnent des bains rituels pratiqués par l'empereur et les fonctionnaires.
D'accord.
Alors on n'en sait pas plus pour, je dirais, le peuple. Hein,
oui.
Mais en tout cas, on savait pour l'empereur et les fonctionnaires. Et ils pratiquaient ces bains rituels avant les cérémonies religieuses pour se débarrasser des impuretés physiques et spirituelles. Et le bain faisait aussi partie des règles monastiques bouddhistes pour maintenir la pureté du corps et de l'esprit.
Bon, c'est bien ça. Et à quelle époque, en fait, les bains publics sont apparus en Chine?
Il y a environ 2000 ans, Didier. On a trace de ça depuis longtemps.
D'accord.
Et cette pratique, je parle de bains publics, donc pour tout le monde. Et cette pratique est venue des traditions moyen-orientales indiennes et d'Asie centrale par les voyageurs de la route de la soie.
Et oui, la fameuse.
Mais c'est vrai que dans
le
bassin
énorme.
Méditerranéen, le hammam, les bains turcs, c'est venu de là.
Mmh.
Et ces bains publics vont se multiplier très vite dans les grandes villes pour devenir des lieux de sociabilité et de détente en Chine. Et puis au Xe siècle, le bain est devenu plus sophistiqué et considéré comme un remède contre les maladies. Alors il y a de nombreux traités médicaux de l'époque qui décrivent les bienfaits des différents types de bains. Moi ça m'a beaucoup amusée. Alors les bains à la fleur de prunier, ça purifie la peau.
Oui.
Le bain aux feuilles de mûrier, c'est pour la circulation sanguine.
Okay.
Le bain au gingembre, contre le... Ah bah ça on s'en doute un peu, hein. Contre le rhume et la fatigue.
Il m'aurait fallu ça, moi, en janvier. Tiens.
Oui, c'est vrai. Et le bain aux feuilles d'armoise pour soulager les douleurs articulaires.
Ouais.
Le bain aux racines de ginseng pour l'énergie vitale. Et pour finir, le bain aux fleurs de chrysanthème pour calmer l'esprit et apaiser les inflammations cutanées.
Ouais, à part que j'achète tout ça, quoi.
Oui, ça peut nous faire du bien.
Okay.
Alors, à partir du XIVe siècle, les bains publics sont devenus des lieux de rencontres importants. Ils fonctionnaient comme des salons de thé où l'on pouvait discuter politique, art et commerce tout en profitant d'un bain chaud. Et il était courant que les familles se rendent ensemble au bain, notamment avant les grandes fêtes traditionnelles comme le Nouvel An chinois.
Très honnêtement, je crois que j'apprécierais, moi. Alors, il y a une technique particulière dans les bains chinois ?
Oui, ça, le bain chinois diffère du bain occidental, ouais. Car ne consiste pas forcément à s'immerger complètement dans l'eau. Il privilégie souvent le lavage par aspersion, le bain de vapeur et bien sûr les bains aux herbes médicinales en immersion ou sec.
Sec ?
Eh oui.
Ah oui.
Il y a plusieurs variantes. Hein. Le bain d'immersion, pratiqué dans les sources thermales surtout. Oui. Le bain de vapeur, qui est inspiré des hammams pour éliminer les toxines.
Ouais,
et le bain sec avec des herbes qui sont chauffées, Didier.
D'accord.
Alors quelquefois chauffées même sur la peau.
Bah, un peu version sauna, tu veux dire ?
Ben oui, oui, c'est ça.
D'accord.
T'es dans une pièce avec des herbes chauffées,
d'accord.
Et voilà.
Bon.
Et tout ça, c'est pour générer de la chaleur et favoriser la transpiration.
D'accord.
Alors, le bain est toujours associé, bien sûr, au principe du yin et du yang.
Okay.
L'eau chaude est yang, bien sûr, elle apporte énergie, chaleur et vitalité, tandis que l'eau froide est yin et apporte calme et détente. Mais il faut savoir, hein, le matin, c'est bien une douche chaude, c'est pas une douche froide.
Mm-hmm.
Et le soir, il vaut mieux prendre une douche tiède, voire le plus frais possible,
ouais.
Pour bien dormir.
D'accord, pas sûrement.
Ils avaient raison, les Chinois.
Ouais,
ils ont toujours raison. Enfin, ils ont souvent raison.
Je suis pas sûr. Mais oui, d'accord.
Si, ils ont souvent raison
pour
tout
ça. Ah oui, qu'ils aient raison aussi. C'est le côté froid qui m'embête, moi. Mais
oui.
Ok, allons-y.
Alors, il faut un équilibre entre ces deux éléments, le chaud, le froid, le yin et le yang. Et bien sûr, on se baigne nu après s'être lavé, Didier.
Bien sûr.
Et en plus de la pratique du bain, il y a celle des sources thermales en Chine aussi,
ouais.
Avec de très nombreuses sources chaudes naturelles qui sont réputées depuis l'Antiquité pour leurs propriétés thérapeutiques, je dirais un petit peu comme nous, en Europe. Alors
d'accord.
Moi, je propose qu'on se fasse une pause musicale,
oui.
Et qu'on écoute un chanteur que j'aime
bien. Voilà,
oui,
un
coréen.
Okay.
C'est Paul Kim et c'est une chanson qui est... Et la traduction, c'est « Me After You ».
D'accord.
Que 이후로 사소한 변화들에 행복해져 눈이 부시게 빛나는 아침 너를 떠올리며 눈 뜨는 하루 식탁 위에 마주 앉아 너의 하루는 어땠는지 묻거나 나의 하루도 썩 괜찮았어 웃으며 대답해주고 싶어 배가 다닌 일에 마음이 통할 때면 익숙해진 서로가 놀라웠어 널 사랑해 평온한 지금처럼만 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어 너를 만나 참 행복했어 나 이토록 사랑할 수 있었던 건 아직 어리고 모자란 내
Alors effectivement, c'était plutôt joli comme petite
joli,
musique,
hein,
comme mélodie. Alors donc revenons quand même
au bain.
Voilà, s'il te plaît. On est bien sur Asiologie, hein, mais on va aller vers le bain. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui est devenu cette pratique du bain ?
Alors, avec la modernisation et l'ouverture de la Chine,
oui.
Les bains traditionnels ont été influencés par les onsen japonais. Je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est.
D'accord.
Et les jilbang coréens.
Ah, alors là, moi, je connais
moins. Je vais expliquer aussi ce que c'est. Alors, aujourd'hui, de nombreux spas chinois offrent des... On appelle ça des spas maintenant, hein, comme en France
bien
aussi.
Sûr,
hein,
c'est ça.
Offrent des expériences qui combinent le massage, les bains... les soins de la peau, les huiles essentielles et tout ça.
Ouais.
Et le marché du bien-être et de la beauté explose
comme
en Chine comme partout.
Ouais.
Et s'y développent de grands complexes de bains qui attirent les touristes chinois et aussi, bien évidemment, les touristes étrangers.
Alors,
voilà.
Puisque tu parles d'étrangers, on va aller ailleurs maintenant. Et en Corée, alors, il y a de grandes différences ?
quelques-unes. D'accord. Alors, contrairement au Japon et à la Chine, où les bains sont plus souvent individuels ou liés aux sources thermales, la Corée a développé une tradition unique de bains publics et de sauna collectifs qui s'appelle les Jimjilbang.
D'accord.
Voilà, lieu incontournable quand on visite la Corée. Aujourd'hui, je le dis à ceux qui se préparent à visiter la Corée, il faut aller
dans un Jimjilbang.
Okay. Absolument. Bon. Alors, les premières traces du bain en Corée remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc c'est presque comme en Chine, hein, 2000 ans, donc on parle des bains publics, où les élites utilisaient des bains pour la purification et la relaxation. Puis aussi, avec l'influence de la médecine traditionnelle chinoise, le bain va évoluer comme en Chine. Il y aura, à partir du XIVe siècle, le développement des saunas en pierre chauffée sous le sol. Alors ça, on reparlera, quand on parlera de l'habitat coréen, on parlera du chauffage coréen sous le sol. C'est très particulier à la Corée. Et donc, ça s'appelait les Jimjil. C'est pour ça que Jimjilbang, c'est les saunas. Ça vient de là, de ces saunas en pierre chauffée sous le sol. Alors avec l'industrialisation et l'urbanisation du XXe siècle, les bains privés se sont multipliés. Mais les bains publics ont continué de prospérer, devenant un phénomène culturel en Corée.
D'accord. Voilà. Et alors, dis-moi, est-ce qu'il y a différentes sortes de bains publics en Corée ?
Oui, il y en a deux. Il y a les Mokyoktang, l'équivalent des bains japonais, et les Jimjilbang, donc, qui sont les fameux grands complexes qui offrent une expérience complète de relaxation et de bien-être.
Ok.
Mais alors, que fait-on dans un Mokyoktang ? Alors, après s'être lavé et gommé le corps, on se baigne nu dans l'eau chaude et froide, en alternant les bassins, pour améliorer la circulation sanguine, Didier.
Je veux bien le croire, ouais. D'accord.
Tu restes pas dans le chaud. Et on peut aussi, dans les Mokyoktang, profiter des bains aux herbes médicinales. Alors pareil, comme en Chine, ginseng, gingembre ou thé vert. Mais aujourd'hui, on va plutôt au Jimjilbang, comme je vous le disais, le sauna coréen qui rassemble toutes les pratiques, Didier.
Alors, du coup, moi, je veux savoir, que trouve-t-on dans le sauna coréen ?
Dans ce Jimjilbang.
Tu nous fais rêver, là. Donc,
oui, je vais vous faire rêver. Alors, y a dans ce complexe, il y a différentes salles de sauna. Il y a une salle de cristaux de sel pour améliorer. Alors, c'est très beau à l'intérieur, en plus. On voit les photos sur Internet.
Il faut essayer.
Des cristaux de sel, donc c'est un sauna particulier, pour améliorer la respiration. Il y a une salle d'améthyste.
Rien que ça.
Pour favoriser le sommeil. Une salle de charbon de bois de chêne, pour ses bienfaits détoxifiants, et bien d'autres. En fait, il y a plein de sortes de saunas.
Ah, ça a l'air étonnant. Hein.
Et c'est aussi un super... Alors, bien sûr, il y a les bassins, tout ça.
Oui, ça devient un truc important, quoi.
C'est un parc de loisirs,
Ce que j'allais dire, on y passe la journée, quasiment.
Et la nuit, Didier.
Alors.
Voilà, c'est un super espace de détente, mais aussi de loisirs. Alors, on y trouve des salles de repos, des cafétérias, des salles de jeux vidéo et même des cinémas. Et les Coréens, ils viennent en famille ou entre amis et passent parfois toute la nuit dans ces établissements. C'est très, très, très convivial.
Alors, tu sais quoi, Corinne ? J'avoue que tu m'as fait envie, là.
Alors, voilà. Alors, il y a des grandes Jimjilbang à Séoul, dans les grandes villes. Il y en a un qui s'appelle Dragon Hill Spa.
Ouais.
Et paraît-il que c'est... Faut y aller, quoi. Faut y passer et tu y passes plus d'une journée.
Je vais à Séoul, j'irai, je penserai.
Voilà.
Pas de souci.
C'est de véritables attractions et c'est très abordable. L'entrée, c'est 7 euros. De 7 à 15 euros.
Ah ouais, en plus.
Oui, et par contre, il faut payer pour des extras.
Soins,
mais c'est très abordable. Ouais, voilà.
Mais déjà, c'est un
très
prix d'entrée de base qui permet de découvrir pas trop cher. Quoi.
C'est ça.
Alors, bon, on a fait la Chine et la Corée maintenant. Oui. Et au Japon, comment ça se passe ?
Alors, c'est pas très différent de tout ce que je viens de dire, de la Chine ou de la Corée sur le plan pratique.
D'accord.
Mais c'est en plus, au Japon, un rituel de connexion avec la nature. Cette dimension-là n'est pas toujours présente en Chine et en Corée. Le bain japonais se décline sous plusieurs formes aussi. Il y a les bains domestiques, il y a les onsen, qui sont les célèbres sources thermales naturelles, et les sento, les bains publics traditionnels qui existent depuis un petit peu plus tard qu'en Chine et en Corée. C'est depuis le XVIe siècle.
Oui, effectivement.
Alors, l'histoire du bain au Japon remonte quand même à plus de 1500 ans, mais pas les bains publics. Elle est liée à la pratique de purification des rituels religieux bouddhistes et shintoïstes. Ouais. Et jusqu'au XXe siècle, la plupart des maisons japonaises ne possédaient pas de salle de bain.
Ouais.
Et donc, avec la modernisation du pays, l'installation de bains privés s'est généralisée.
D'accord.
Mais les onsen, donc les sources thermales, et les bains publics restent populaires au Japon aussi.
Salle de bain,
aussi.
C'est un peu partout. Hein.
Voilà.
Si on est allé chez mon grand-père au XXe siècle, on n'a pas vu de salle de bain non plus.
C'est vrai. C'est
alors,
vrai.
Qu'est-ce que le bain, en fait,
oui,
domestique ?
Oui, mais on n'avait pas de bain public. On
oui.
avait les.
Oui,
on
oui,
a... Si, il y avait des bains douches, il y en avait,
ouais, mais c'était pas aussi développé.
C'était pas aussi développé. Voilà,
c'était pas dans notre culture comme chez eux. Et est-ce que, du coup, est-ce que le bain enfin, qu'est-ce que c'est que le bain domestique ?
Oui.
C'est différent de nos salles de bain à nous, alors ?
Bah, en fait, la salle de bain japonaise, ça s'appelle le furo.
Ok.
C'est une pièce qui est vraiment essentielle dans les foyers japonais. Bah oui, parce que il y a les petites douches à hauteur, on s'assied sur les petits tabourets,
ouais,
tout
j'ai
ça.
Vu ça, c'est étonnant.
C'est étonnant. Donc on se lave à l'extérieur de la baignoire avant d'y entrer. La baignoire, en général, elle est grande. On peut même y rentrer à plusieurs.
Alors.
Et donc l'eau, elle reste propre et elle peut être utilisée par toute la famille.
Ah oui, d'accord, oui, bien sûr.
Et l'eau y est maintenue. Alors ça, c'est vrai que c'est dans les salles de bain un petit peu, on va dire, confortable.
Oui,
hein.
C'est sûr.
L'eau y est maintenue à une température élevée, entre 38 et 42 degrés. 42, ça chauffe
quand même,
les fesses.
42, ça commence à faire, oui.
Oui, ça chauffe les fesses, on ne peut pas rester très longtemps. Et bah, y a un système de chauffage incorporé à la baignoire.
Okay.
Et dans les régions de sources thermales, bah, ces bains, même les bains domestiques, sont alimentés par les sources chaudes naturelles.
Oui.
Alors c'est dans les ryokan, hein, les auberges traditionnelles, que les touristes peuvent profiter de tout ça. Et je conseille vivement à ceux qui visitent le Japon d'aller passer une nuit ou deux en ryokan et de tester les bains, les onsen privés extérieurs.
Ouais.
Imagine-toi, Didier, face à la montagne, dans une baignoire privée,
tu
dans
sais,
une
mon
eau chaude.
Amour de la nature, je pense que je m'y ferais assez bien.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup des bains publics, par contre, des bains publics japonais ?
Ben, ils sont très utiles hein, quand on n'a pas de vraie salle de bain, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vraie salle de bain. Il existe maintenant des super sento modernes, comme les fameux Jinjilbang coréens, avec des bains aux herbes médicinales et des bains au yuzu en hiver. Là, ce n'est pas le gingembre, c'est le yuzu.
Alors...
Il y a aussi des bains au saké, au thé vert, des bains au lait.
On va finir par les boire. Hein.
Et c'est ça. Alors, mais il faut savoir qu'il y a des règles plus strictes qu'en Chine et en Corée.
Ouais.
Il faut être silencieux au Japon dans les bains.
Je ne suis pas tellement surpris d'entendre
ça. D'accord. Et certains onsen, donc les sources thermales, interdisent encore les tatouages
car
ils sont associés au yakuza.
Oui.
Voilà. Bon, on se fait une petite chanson, Didier, de se rhabiller en kimono.
C'est ça. Une petite chanson qui va nous balader.
Japonaise,
un petit
je
peu,
crois.
Une petite balade, ouais, voilà, c'est ça.
The twilight glow surrounds us now. その優しさが心に響く. It's gentle warmth, a heartfelt vow. 君の愛が私を癒す. Your love heals the ache inside. 静かな夜に道を示す君のそばで未来を感じる By your side The future I feel 夕暮れの中で
Je pense qu'il faudra qu'on la remette, celle-là.
Je pense, oui, pour que les auditeurs aient le temps d'en profiter pleinement.
Oui, on se pose toujours la question, est-ce qu'on met deux pauses, une pause ? Mais bon,
oui,
ça permet aux auditeurs et auditrices de se reposer entre
reprendre
nos chroniques.
Une autre chronique, une autre ambiance.
C'est ça.
Voilà.
Une autre ambiance, parce que là, on est après le bain, Didier.
Eh oui, on va se rhabiller.
On se rhabille.
Et c'est ça.
Donc, raconte-nous l'histoire du kimono.
Eh oui,
maintenant.
Alors, le kimono, en fait, il est connu dans le monde entier. Ça, je pense que... On est d'accord
c'est
pour
vrai.
Tous,
ah, oui,
hein,
oui.
Pour son élégance, sa beauté qui reflète toute la richesse culturelle du Japon. Il a évolué au cours des siècles et aujourd'hui, il est porté pour des fêtes et des occasions spéciales comme les mariages, les funérailles. Et pour le plaisir, il reste en fait un symbole fort de l'identité japonaise, bien qu'il ait des racines chinoises. Alors, c'est à partir du XIIIe siècle que le kimono est devenu la tenue quotidienne, en fait, avec des variations en fonction des classes sociales, des saisons et des professions. C'est avec l'ouverture du Japon à l'Occident au début du XXe siècle que les Japonais vont remplacer progressivement le kimono par des vêtements occidentaux. Et durant la Seconde Guerre mondiale, son usage a décliné à cause de la pénurie de tissus.
Ah oui, ça a accéléré.
Et oui.
Forcément, l'abandon du kimono.
C'est ça.
Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de kimonos, Didier ?
Alors, il y a des kimonos féminins et des kimonos masculins.
Oui.
Le Furiosité est porté par les jeunes femmes célibataires. Il a des longues manches flottantes. Le Tomezode, c'est le kimono des femmes mariées avec des manches courtes et avec des motifs concentrés en bas du vêtement. Et le Komone, c'est le kimono de tous les jours décoré de nombreux petits motifs. Pour le mariage, les femmes portent parfois l'ushikake, très décoré. Et il y a aussi le yukata, léger, en coton, unisexe, porté en été et lors des festivals.
Oui, donc il y en a beaucoup de sortes,
voilà,
en fait.
Tu vois, ça en fait pas mal selon les besoins et selon les moments de la vie. Alors, les kimonos masculins sont plus simples. Il y a le montsuki, le kimono formel, noir, avec le blason familial. Et il y a le yaori, avec l'akama, une tenue avec une veste et un pantalon large pour les événements cérémoniels.
Alors, parle-nous des tissus et des motifs. Il y aurait beaucoup à dire, je pense, là-dessus.
Je pense, mais... oui. On va encore pas avoir le temps, mais
oui.
les kimonos traditionnels sont en soie, en lin ou en coton. Aujourd'hui, parfois en polyester, bien sûr. Souvent teints et brodés à la main. Certains nécessitent plusieurs mois de travail. Les motifs des kimonos varient selon les saisons. Ils ont des significations, bien sûr, on est au Japon. Hein. Par exemple, les fleurs de cerisier signifient le printemps, la jeunesse et la beauté éphémère. La feuille d'érable, l'automne et le changement. Et les grues symbolisent la longévité et le bonheur. Et les vagues, la force et la persévérance.
Alors, oui, c'est joli tout
hein,
ça.
Tout ça.
Alors,
voilà.
De quoi est composé un kimono ?
Alors, on y va.
Il y a plusieurs parties,
voilà,
j'imagine.
C'est ça, il est composé de nombreux éléments, en fait. Hein. Il faut du temps et de la technique pour le mettre correctement. Un kimono est fabriqué à partir d'une seule pièce de tissu, coupée en plusieurs bandes rectangulaires, puis assemblée pour le fabriquer. Alors, puis, on y ajoute une doublure intérieure, avec des bandes de tissu situées à l'avant et qui se chevauchent lorsqu'on ferme le kimono.
Mmh.
Les manches sont larges et leur longueur varie selon le type de kimono. La partie vide des coins de la manche, le tamoto, peut servir à ranger de petits objets. Il y a aussi des ouvertures sous les manches pour passer les bras. L'ourlet du bas du kimono est renforcé pour protéger le tissu.
Ah oui, les ouvertures, en fait, on peut passer un cordon pour attacher derrière quand on a des activités et on a besoin d'avoir les bras nus.
J'avoue, j'en ai jamais passé, donc je ne me rends pas bien compte. Mais... Alors,
on voit ça très bien dans Chihiro.
Ah, ok. D'accord.
Je suppose qu'il y a des accessoires, Didier.
Oh, bien sûr qu'il y en a. Il y a aussi donc, un sous-vêtement spécifique, très souvent blanc, le Nagajubane, qui est un sous-kimono porté pour éviter en fait, que la sueur n'abîme le kimono principal, qu'on ne l'avait pas toujours. On imagine, quand ils sont très...
Bah oui, très brodés.
Très brodés, tout ça, oui. C'est quand même assez fragile. Mm. Et le sous-vêtement, un autre sous-kimono encore plus léger, assorti à un pantalon de coton.
Ça doit être joli.
Oui, oui. Et pour fermer le kimono, on ajoute plusieurs liens et attaches. Bon, alors, il y en a un qu'on connaît quand même un petit peu quand on s'y intéresse, c'est le hobi.
Oui.
La large ceinture souvent brodée.
Oh.
Et elle existe en plusieurs types. Il existe plusieurs types de hobi selon les occasions. Alors, il y a aussi le hobijime. C'est la cordelette décorative qui sert le hobi lui-même. Et d'autres liens à mettre dessus et dessous. Très compliqué, en fait, à décrire hein, tout
oui.
ça.
Oui, c'est,
alors,
t'imagines.
C'est ça. Surtout pour le kimono féminin. Il faut savoir que la position de l'hobi varie également en fonction du genre. Pour les hommes, alors l'hobi est porté bas sur les hanches, tandis que pour les femmes, il est porté plus haut, juste au-dessus de la taille. Pour apprendre à le mettre et à bien le porter, il existe des écoles d'art en kimono. Hein.
Ouais, il faudrait que je...
Hein
j'aimerais
il faut une petite formation,
ça.
Je ne suis pas surpris.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les chaussures ? Qu'est-ce qui sert de chaussures, Didier ?
Alors là, avant les chaussures, on met des tabis. Les chaussettes traditionnelles,
oui.
souvent blanches, avec une séparation entre le gros orteil et les autres petits doigts de pied. Cette forme de chaussette permet d'enfiler les zori, qui ressemble en fait à nos tongs modernes, avec une semelle par contre souvent en paille de riz ou en bois laqué ou des matériaux synthétiques maintenant. Donc les zori en paille de riz sont plus décontractées, tandis que celles en bois laqué sont plus élégantes, avec une forme plus fine et épurée que les guetta sont des sandales. En fait, les guetta sont des sandales en bois surélevées. Généralement, elles sont portées avec le yukata, le kimono léger d'été, très utile en fait quand il pleut.
Oui, c'est
découvert
sont,
ça.
Oui,
tu n'avais pas pensé à ça.
Oui, oui, ça évite la boue. Et
bah, c'est ça. On a cette image quand même des chaussures en bois, oui. Là, avec ça. C'est une image qu'on connaît, quoi. Voilà.
Alors, combien coûte un kimono, Didier?
Alors ça, en fait, ça varie énormément, t'imagines bien. Hein.
Oui.
En fonction du type de matériau, de la fabrication artisanale ou industrielle, puis bah, l'occasion pour laquelle il est destiné. Hein. Je vais vous donner des estimations. Alors, pour un yukata simple, on en trouve à partir de 30 euros.
Oui, ça va.
Pour un kimono en synthétique, comptez de 50 à 200 euros. Pour un kimono en soie de qualité standard, là, on est de 300 à 1000 euros. Et alors, pour le kimono en soie traditionnel, fait main, avec des motifs peints à la main, là, vous imaginez bien que ça augmente. C'est
oui.
De 1500 à 10 000 selon les heures de travail.
Oui, sans doute, oui.
Alors,
c'est 10 000 euros, c'est pas mal.
J'ai pas fini.
Ah oui.
Le plus cher, c'est le kimono de cérémonie, dont le prix peut grimper très, très haut. 20 000 euros, c'est le prix pour un magnifique kimono.
Oh
quoi. Ça commence à faire un sacré
investissement. Oui, c'est des œuvres d'art, quoi.
C'est ça. Alors, s'y ajoutent en fait les accessoires, parce qu'après, c'est pas fini, avec le hobby, qui peut aussi coûter très cher. On peut tout de même se faire plaisir avec un kimono d'occasion, ça c'est une idée.
Oui, il y a des magasins, paraît-il,
au Japon. Autre alternative très sympa, quand on visite le Japon, c'est la location pour la journée. Ça, c'est beaucoup plus abordable. Comptez entre 30 à 100 euros avec l'habillage compris. Puis, il existe aussi des versions modernes inspirées du kimono à partir de 50 euros en prêt-à-porter.
Bon, voilà. On sait ce qu'on va se ramener comme souvenir.
Et moi, ma petite touche en plus, c'est que si vous voulez en savoir plus, il y a eu une expo au Quai Branly, au musée du Quai Branly, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont sorti un livre qui est magnifique.
Sur les kimonos.
Ah, là, c'est une bible du... Enfin, moi, je trouve que c'est très, très sympa aux éditions de La Martinière. C'est Kimono et ça a été édité par aussi le Quai Branly. C'était une très belle expo et un très beau livre.
Merci Didier.
De rien.
Bon, c'est fini, Asialogie, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver, chers amis, sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut.
Et tu sais quoi ? Toujours avec grand plaisir.
Et toujours avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.